je vous présente rapidement Nathalie Fedel, qui enseigne à Victor Laurier au Canada, et dont les travaux portent sur l'art d'écrire des lettres en France au XVIIe siècle, et particulièrement les lettres de femmes. Elle a donc publié deux livres sur les lettres de Madame de Sévigné, « La conquête de l'intime, public et privé dans la correspondance de Madame de Sévigné » chez Champion en 2009, et rédigé une partie du volume Atlante sur la partie texte, hein, volume agrégation.
Alors, l'essentiel de l'Atlante en 2012, pardon, c'est difficile à percevoir.
Mais elle a aussi publié deux éditions de choix de lettres en folio classique 2012 et 2016, qui travaille à déplacer la perception de Madame de Sévigné épistolaire. Et elle conduit actuellement un projet sur l'épistolaire voie d'accès des femmes à l'écriture, dont j'ai tiré le beau livre sur les temps des écriveuses, paru chez Garnier en 2022, que je peux faire circuler parce que je vais apporter.
Voilà. Merci pour cette présentation. Et puis, pour toutes ces discussions vraiment et ce thème, ce projet de travail vraiment très très stimulant. Alors, l'œuvre sévignéenne, telle qu'elle nous est parvenue, ne se conçoit pas en dehors du cadre de la parenté. Et donc, je vous propose ce diagramme très simplifié, mais qui permet d'apprécier l'étendue du dispositif familial qui se caractérise donc d'une part par les grands ensembles en bleu, c'est-à-dire les clans auxquels Sévigné est lié par la naissance, par son mariage et par ceux de ses enfants, mais chaque clan étant eux-mêmes reliés à d'autres maisons par des relations de consanguinité, d'amitié et de service, lesquelles ne vont pas sans rivalité et conflit. La complexité de ces liens qui obligent et amènent l'individu à se penser en fonction d'intérêts qu'il dépasse rend tout à fait irréaliste et hors propos le scénario du tête-à-tête épistolaire entre Sévigné et sa fille. Il ne s'agit pas de nier les liens affectifs, qui ont évidemment leur place dans l'échange, mais de les situer dans le contexte dynastique, politique et économique de l'organisation nobiliaire. En considérant l'œuvre sévignienne dans sa dimension de machine à écrire familiale, on ne la réduit pas au fort privé. Au contraire, on souligne tout ce qui l'apparente à une activité qui suppose des connaissances, de l'expérience et la volonté de la transmettre. À rebours d'une tradition prompte à faire de la famille carcan féminin, nous proposons de penser la parenté comme le cadre de travail de Sévigné. Vu sous cet angle, l'entretien des liens familiaux, la formation et la négociation de nouvelles alliances, la transmission du patrimoine matériel et culturel, dont on a beaucoup parlé, constituent autant d'entrées dans l'écriture, un riche matériau à disposition, et pourquoi pas le sujet choisi pour faire œuvre. Parmi les nombreuses occasions d'écriture liées à la famille, donc là j'avais vraiment le choix, j'ai donc porté mon dévolu sur le mariage parce que c'est un morceau de choix. C'est le grand événement de la vie sociale, négocié âprement, annoncé, commenté, analysé, raconté. Et pour la veuve qui était Sévigné, le mariage de ses enfants a représenté vraiment une énorme responsabilité. C'est à elle, en l'absence de pater familias, que revient la tâche de choisir, de négocier les conditions et surtout d'assumer les conséquences, notamment économiques, des unions. Dans les lettres où l'épistolière soutient face à Lucie Rabutin, son cousin, une dispute lignagère, ou négocie avec le père de la promise le contrat de mariage de son fils, on constate que l'écriture ne fait pas qu'enregistrer la mémoire familiale, mais rend possible l'exercice de l'autorité, se confond avec la gentilité, on a beaucoup parlé, agentivité définie comme, je le rappelle, la capacité à résister aux normes sociales de genre. Mais j'essaierai plus loin d'affiner cette définition. Dans un deuxième temps, alors que c'est au tour des grignons d'établir leurs enfants, il est question pour Sévigné de transmettre un savoir, une expérience, à travers l'établissement de sa descendance, la postérité, une expérience, c'est d'assurer à travers l'établissement de sa descendance la postérité de son œuvre, entre guillemets. Donc, mon premier point, écriture et reconfiguration familiale, marier sa fille. Chez les élites sociales, le mariage est véritablement l'épreuve du feu, un moment critique où se joue le destin du clan, sa survie, sa descendance. Guy Spillman rappelle que le mariage de l'Ancien Régime, je cite, « ne saurait simplement se résumer à un contrat d'individu à individu, c'est un acte social qui engage toute une communauté. De ce fait, il est précédé d'un long travail préparatoire. Recherche, négociation, demande d'appui et d'autorisation. Chez Sévigné, on découvre comment l'épistolaire est mis au service de cette entreprise à risque, où il s'agit de calculer, d'informer, de solliciter, de convaincre de la viabilité du projet. L'épreuve a sans doute été de taille au moment du mariage de sa fille parce que Sévigné se trouvait démuni du soutien qu'aurait pu lui apporter un Res ou un Bussy sans leur disgrâce. Seule femme face aux 5 frères Grignan, on a vu beaucoup de dynasties de frères, chez les Grignan, donc on a 5 frères, parmi les frères, donc un archevêque, donc des personnages importants, et surtout une noblesse ancienne pour une fièvre qui devait faire considérer comme quantité négligeable la parentèle des Poulanges, qui est donc la famille maternelle de Sévigné. Son unique levier étant économique, une grande partie des négociations a dû consister à trouver des sponsors auprès de qui emprunter l'argent liquide de la dot. Et le fait qu'aucun témoin de ces échanges n'ait été conservé ne permet pas de conclure, comme le fait Geneviève à Roche-Bouzinac, que Sévigné, je cite, ait agi sur un coup de tête et instinctivement. Le discours historiographique est malheureusement prompt à reconduire les préjugés sexistes de l'Ancien Régime. Le système du pacte de famille, contrôlé par les pères et le pouvoir royal, voit certainement d'un mauvais œil que la transaction soit menée par une femme. Et c'est d'ailleurs ce qu'a montré Christian Biais à propos de la princesse de Clèves. Selon lui, le tragique du mariage découle entre autres des erreurs commises par la mère veuve, donc c'est elle qui a décidé ce mariage, et du fait qu'il se décide sans la garantie de l'autorité paternelle. Nous disposons cependant d'une lettre importante écrite par Sévigné à son cousin Bussy, Rabutin. Je vais vous la lire. Début décembre 68, pour l'informer du contrat conclu avec les Grignons. Sous couvert de lui demander son avis et son autorisation, inutile puisque l'affaire est déjà conclue, l'épistolière expose les circonstances, les motifs, l'opportunité de cette alliance. C'est donc bien de la gentilité de l'épistolière dont il est question, de sa capacité à imposer son choix et à jouer un rôle qui excède les prérogatives de son sexe. Il faut que je vous apprenne une nouvelle qui sans doute vous donnera de la joie. C'est qu'enfin la plus jolie fille de France épouse non pas le plus jeune garçon, mais un des plus honnêtes hommes du royaume. C'est Monsieur Grignan que vous connaissez il y a longtemps. Toutes ces femmes sont mortes pour faire place à votre cousine. Et même son père et son fils, par une bonté extraordinaire, de sorte qu'étant plus riche qu'il n'a jamais été, et se trouvant d'ailleurs, et par sa naissance, et par ses établissements, et par ses bonnes qualités, telles que nous le pouvons souhaiter, nous ne le marchons donc point comme on a accoutumé de faire. Nous nous en fions bien aux deux familles qui ont passé devant nous. Fin de la citation. Faire paraître sobre, malgré les épithètes superlatives, pas question de jouer aux devinettes, comme pour l'annonce du mariage de mademoiselle, les présentations sont vite expédiées. Duchesne suppose que Bussy et Grignan ne s'aimaient guère, car Bussy ne le mentionne pas dans ses mémoires. La symétrie de l'expression « la plus jolie fille, le plus honnête homme » compose un couple bien assorti, mais ce n'est pas ce qui importe ici. Il faut convaincre que l'union sert l'ensemble de la parenté. C'est le sens du « nous » employé par Sévigné.
Alors, le lecteur, la lectrice moderne, est un peu désemparée par l'humour grinçant qui pointe sous « toutes ces femmes sont mortes », on dirait un peu barbe bleue, et nous ne le marchons donc point. Or, de tels énoncés reflètent pourtant fidèlement les réalités du mariage acte familial au XVIIe siècle, clairement lié à la question des biens familiaux et expose dans leur nudité un marché matrimonial qui a été soi, en fait. Il faut donc montrer qu'on a fait une bonne affaire pour soi et pour le reste du clan.
Alors, la mention intéressante des deux familles qui ont passé avant nous consiste à présenter comme une garantie supplémentaire le fait que deux clans prestigieux, ce sont donc les Rambouillet et puis Dufou, aient auparavant fait le même choix.
Donc là, en fait, ce que j'essayais de montrer, c'est les mariages précédents du comte de Grignan, donc avec Angélique Clarisse d'Angennes, donc la fille de Madame de Rambouillet, et puis ensuite
Marie-Angélique,
bon, encore une Angélique, puis Dufou. Donc ce sont les deux mariages précédents.
L'enjeu est double, car en démontrant la légitimité de cette alliance, Sévigné fait aussi la preuve du bien fondé de son pouvoir décisionnaire. D'où l'excuse finale.
Comme je suis une dame assez régulière,
qui souligne au contraire l'irrégularité de la situation. Elle se conduit en chef de famille, s'arroge les attributs de la puissance paternelle.
Ce qui vient confirmer cette hypothèse, c'est que la suite de la lettre
fournit un des rares, voire unique, je crois, exemple
d'hommage
de la correspondance à la figure de
l'époux défunt de Sévigné,
Henri de Sévigné, par le biais de sa maison, dont l'épistolière défend le rang et l'ancienneté.
L'invocation des 14 contrats de mariage de père en fils, des 350 ans de chevalerie et l'énumération des bonnes et grandes alliances des Sévigné
constituent autant de
substituts du père venus conforter l'autorité contestable de la veuve.
La validation recherchée par Sévigné auprès de son correspondant n'est pas de pure formalité.
À cette époque où se poursuit la querelle de l'affaire du portrait et la demande de réparation face à l'humiliation infligée par la publication de l'histoire amoureuse, l'écriture épouse volontiers les logiques de la parenté. Il s'agit pour l'épistolière de faire reconnaître simultanément sa légitimité
d'écriveuse et de décideuse, sa compétence de partenaire épistolaire
et de chef de lignage. Alors, j'en viens à mon
deuxième point avec le mariage de Charles,
que je vais développer un peu davantage. Donc, le faire part du mariage de Charles, intervient 15 ans plus tard, adressé au même Bussy, permet de constater que cette légitimité est définitivement acquise. Cette fois, il ne s'agit pas d'obtenir une approbation, mais de demander une procuration. Sévigné ne justifie plus son choix. Elle vante le succès d'une opération avantageuse menée à bien
malgré les difficultés et se paye le luxe d'en tirer une réflexion morale traduisant l'expérience dans sa langue d'écrivaine. On observe ici la chef de famille
dans l'exercice d'un pouvoir que lui confère à la fois sa place de matriarche et sa maîtrise de l'outil d'écriture face à des correspondants qui, pendant cette période de cohabitation avec Madame de
Grignan, sont tous masculins. C'est intéressant de le souligner. À cette époque, elle écrit, ses correspondants sont Bussy, Moron,
qui est le père de la future, Charles,
Mousseau, qui est un provençal et conseiller à la cour des aides de Montpellier, et Guiteau.
On a donc,
c'est la citation que je donne ici, une première annonce sous forme d'excuse.
Si vous saviez ce que c'est, mon pauvre cousin, que de marier son fils, vous m'excuseriez d'avoir été si longtemps sans vous écrire. Je suis dans le mouvement d'un commerce fort vif avec le mien, qui est en Bretagne, et sur le point d'épouser une demoiselle de bonne maison, dont le père est conseiller au Parlement
et riche de plus de 60 000 livres de rente. Il donne 200 000 francs à ta fille, c'est un grand mariage en ce temps-ci. Il y a eu beaucoup de choses à ajuster avant que d'en venir à signer les articles, comme nous avons fait il y a 4 jours. Dans ce préavis, vite expédié, l'information est réduite au minimum. La demoiselle n'a pas de nom ni de visage. Suffit de connaître la charge du père, sa fortune et le montant de la dot. On reconnaît ici les contours du marché des femmes, étudié par Gail Robin. Dans cette conception du mariage, les femmes sont des objets d'échange, non des partenaires. Les véritables partenaires sont les hommes qui mènent la négociation, celui qui donne le père et celui qui prend l'époux.
Sauf que,
dans le cas du mariage de Charles,
la transaction n'a pu se faire sans la médiation de sa mère.
Les allusions au commerce fort vif
avec son fils et aux nombreuses choses à ajuster avant que d'en venir à signer les articles sont éclairées par 2 lettres,
l'une de Sévigné à Moron, datée du 8 décembre 83, et l'autre de Charles à sa mère, début janvier 84. Alors, de ces courriers que je n'ai pas le temps de détailler, il ressort que l'épistolière joue un rôle médiateur
essentiel entre les parties, qui en réalité ne sont pas 2 mais 3, parce que ce sont d'une part donc Moron, Sévigné, mais aussi les Grignan qui sont impliqués, je vais expliquer pourquoi. C'est à elle en effet que revient la tâche de convaincre les Grignan,
qui sont offensés par les revendications du futur beau-père
qui demande des garanties sur les rentes de Sévigné. Ce qui complique la négociation, que je n'expose pas dans le détail, c'est qu'elle suppose une entente préalable sur la répartition entre le frère et la sœur des biens de leur mère.
Car l'héritage d'Henri de Sévigné
a lui été réglé au moment du mariage de Françoise Marguerite, au moment du mariage de la fille. Il est donc question, c'est ça qui est intéressant, dans ce mariage, de la transmission d'un matrimoine.
Concrètement, et en simplifiant beaucoup, Sévigné cède à son fils tous ses domaines bretons, ne conservant que les revenus de son douaire, ce qui représente une importante diminution de son train de vie. La prise de risque au moment du mariage n'est pas tant liée donc, à l'entente improbable du couple arrangé qu'au potentiel conflictuel des questions patrimoniales liées aux recompositions familiales. Alors, dans une longue lettre, je ne cite qu'un extrait, qui oscille entre la reconnaissance et la plainte, Charles, le fils de Sévigné, rend hommage au miracle opéré par la diplomatie maternelle pour vaincre d'une part les incivilités de Moron, d'autre part la susceptibilité et les réticences des Grignoux. Je sens ton procédé, donc celui de Moron, son futur beau-père, pour vous et pour moi comme il faut le sentir. Mais enfin, comme vous le disiez vous-même, le beau de ce jeu-là est d'épouser. Il faut donc épouser. Ceux qui prennent intérêt à moi le doivent faciliter et vous imiter, vous, ma très chère madame, qui m'avez regardé uniquement dans tout ceci, qui avez écrit quand je vous l'ai demandé, qui n'avez point pris à gauche un mauvais point d'honneur, qui ne me punissait point des travers de Monsieur de Moron, et qui regardait comme une chose indifférente ce que fait Monsieur de Moron, pourvu qu'il me donne 200 000 francs et sa fille. C'est ce succès, obtenu au terme d'un parcours de combattante, qu'il est question de célébrer dans le deuxième courrier à Bussy, 10 jours après l'annonce précédente. Enfin, après tant de peines, je marierai mon pauvre garçon. Je vous demande votre procuration pour signer à son contrat de mariage.
Voilà deux petites lettres d'honnêteté que je vous prie de faire tenir à ma tante et à mon grand cousin. Donc, elle écrit les lettres pour lui, en fait. Les lettres de compliment, elle les écrit pour lui.
Il ne faut jamais désespérer de sa bonne fortune.
Je croyais mon fils hors d'état d'espérer un bon parti, après tant d'orages et tant de naufrages,
sans charge et sans chemin pour la fortune. Et pendant que je m'entretenais de ces tristes pensées, la Providence nous avait destiné à un mariage si avantageux que, dans le temps où mon fils pouvait le plus espérer, je ne lui en eusse pas désiré un meilleur.
C'est ainsi que nous vivons et que nous marchons en aveugle, ne sachant où nous allons, prenant pour mauvais ce qui est bon, prenant pour bon ce qui est mauvais, et toujours dans une entière ignorance. L'affaire est réglée, place à l'écriture. Plutôt que de revenir sur les circonstances du bras de fer dont elle est sortie victorieuse, l'épistolière troque la langue commerciale des négociations pour le style des réflexions. L'intervention de la Providence et la fable du retournement de fortune, c'est la signature de l'écrivaine qui en a fait un motif récurrent du récit épistolaire. Le rappel métaphorique de la carrière militaire peu glorieuse de Charles, tant d'orages et tant de naufrages, le maniement de la prescription, il ne faut jamais, et de la parabole, nous marchons en aveugle, parviennent à donner au singulier, pendant que je m'entretenais, une valeur générale, c'est ainsi que nous vivons. Et ce qui confirme cette forme d'alchimie littéraire, c'est que dans la même série de lettres de mariage, Sévigné compose cette fois à l'intention de Mousseau un compliment comique. C'est la deuxième citation. Il est vrai que j'ai tort de ne vous avoir point demandé la conclusion du mariage de mon fils, mais cela même me servira d'excuse. Demandez à notre ami Corbinelli ce que c'est que d'avoir affaire avec des bas bretons.
Il n'y a point de tête qui n'en soit renversée, et l'on ne peut pas songer à Monsieur de Souneau, à Monsieur de Mousseau, quand on fait un contrat dans la généralité de Ploermel. Cette dernière pensée chasse absolument l'autre.
Votre souvenir ne peut demeurer dans une mémoire chargée de tous les incidents qui ont accompagné notre mariage jusqu'au jour de la bénédiction nuptiale. Elle fut donnée le 8e de l'autre mois, et dès ce moment, je me mis à respirer et à songer qu'il y avait au monde l'antipode de notre beau-père qui s'appelait Monsieur de Mousseau. On admire la versatilité d'une plume susceptible de produire, en fonction des interlocuteurs, des versions aussi dissemblables à partir d'un même matériau. Ici, la satire des Bretons a remplacé les réflexions chrétiennes. Et plus loin, donc, dans une pirouette encore plus tordue que je ne cite pas, elle adresse à Mousseau une variante ironique du discours providentiel dont Bussy, qui vient de perdre son procès en contestation du mariage de sa fille, fait les frais.
Bussy bondit dans les nues. Sa fille est forcenée dans son lit. Dieu l'a ainsi réglée de toute éternité. Amen. Dans cette méchante raillerie à l'égard de son cousin, impuissant à réparer la mésalliance, parce que sa fille s'est mariée en cachette avec la rivière, Donc, impuissant à réparer la mésalliance de sa fille, conclue par un mariage clandestin, nous voyons d'une revanche du féminin
face au règne des pères. Si la lettre sévinienne est exemplaire d'une agentivité féminine, c'est parce qu'elle montre qu'agir ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir transformer l'action par l'écriture afin de déclencher d'autres actions. Et j'en viens
à ma...
À la dernière partie, donc correspondance et transmission. Dans le ton des écrivains, je montre que les correspondances initiées par des femmes,
le cadre familial se constitue en forum où s'échangent des savoirs, véritables espaces d'apprentissage, mais aussi déclencheurs d'action.
Ce qui nous conduit à affiner notre définition de la gentilité, qui ne se résume pas à la capacité d'agir en surmontant les structures de domination, mais suppose l'élaboration d'outils critiques propices au changement.
Alors, sur la question du mariage, Sévigné constitue au fil des années un dossier important,
composé d'une part de la mise en récit de son expérience, dont on vient de parler, d'autre part d'une problématisation de la question à travers le discours des nouvelles, l'information, et l'échange de conseils, prescriptions.
Alors, je laisse de côté aujourd'hui le travail de nouvelliste qui aboutit à l'élaboration d'un répertoire de cas de mésalliance,
couple désassorti, mariage clandestin ou forcé, qui fait concurrence au cabinet de Molière. Et je pense que je montrerai ce dossier-là pour en parler au colloque organisé à Arras
sur le mariage en décembre.
Pour m'intéresser au raisonnement, aux calculs et conseils prodigués à l'heure où se discutent et se décident les alliances de la génération suivante, c'est-à-dire les enfants des Grignons.
Il faut d'abord comprendre les logiques de la parenté qui compliquent la situation de Françoise de Grignon face à l'établissement de ses enfants.
Dans ce cas, ce n'est pas le statut de veuve qui est problématique, mais celui de troisième épouse du comte à la tête d'une famille recomposée. Donc, d'une part, je ne sais pas si vous voyez suffisamment, mais donc à droite, donc les enfants du couple, et d'autre part, à gauche, en gras, donc les deux filles du premier lit, du mariage avec Angélique Clarisse d'Angennes. Alors, je me suis intéressée à cette question de la marâtre, en fait, qui au départ n'est pas péjoratif, c'est le terme simplement qui désigne la deuxième épouse. Selon l'historienne Sylvie Terrier, qui s'est interrogée sur le rôle social de la seconde épouse dans l'Ancien Régime, je cite, « La marâtre jouait un rôle de premier plan dans l'économie domestique et sa contribution était fondamentale pour la survie de l'unité familiale. » Et c'est très exactement le cas de la fille de Sévigné qui, en s'engageant solidairement avec son mari, a accepté qu'un emprunt important fait par Grignon et sa première épouse soit remboursé sur sa dot pour en décharger ses belles-filles, donc les filles du premier. Donc, c'est assez compliqué, mais c'est vraiment crucial de comprendre ça pour comprendre les relations et aussi la problématique économique dans cette famille.
Terrier, et ça aussi, je l'ai développé par ailleurs au moment d'un
colloque sur la marâtre, encore à Arras. Donc, Perrier suggère que cette position de force dans laquelle se retrouvait la deuxième épouse, en mesure donc de contrôler le patrimoine, explique la stigmatisation de la figure de la marâtre dans les représentations collectives, le terme n'ayant pas de connotation péjorative au départ.
Quoi qu'il en soit, le sort des quatre filles à marier.
Donc, on se retrouve avec une, deux, et puis les deux filles du comte et de la comtesse.
Donc, les quatre filles à marier, on se retrouve donc dans un scénario type Cendrillon, en fait, avec
les ressources familiales sont limitées, la compétition est principalement féminine.
Le sort des quatre filles à marier est âprement discuté et évalué dans la correspondance entre les deux femmes,
entre Sévigné et sa fille. Tout d'abord, donc
Sévigné réagit et s'apitoie sur le sort de sa petite fille Marie-Blanche, donc l'aînée Desgrignons, qui a été immédiatement écartée, placée à 5 ans dans un couvent d'où elle ne ressortira plus. Et elle s'oppose ensuite fermement à ce que la cadette Pauline subisse le même sort, ce qui est discuté dans la correspondance. Elle propose comme alternative un programme complet d'éducation à la maison. Et alors là, bien lui en a pris, puisqu'il se trouve que c'est cette petite fille qui s'est trouvée par la suite en position de légataire de son œuvre. Quant aux belles filles, alors leur cas est intéressant, mais c'est une autre paire de manches, car elles ne dépendent pas de l'autorité des Grignans, mais se trouvent en fait sous la protection d'un tuteur, Montaussier, qui prend son rôle au sérieux et défend leurs droits bec et ongles. Donc il y a eu une série de procès, ça n'en finit pas. Car depuis son premier veuvage, Grignan est débiteur de ses filles, héritière de la dot et des deniers de leur mère. Et depuis 1675, il doit leur verser donc, ce qu'ils appellent des arrérages, donc ce terme revient sans arrêt dans les lettres, c'est-à-dire une rente annuelle. En fait. Sauf que il n'est pas capable de leur payer, et donc cette rente est restée impayée et les intérêts s'accumulent. Donc là, avec ces deux filles, on a vraiment un cas intéressant, deux filles qui non seulement échappent en partie à l'autorité paternelle, mais exercent sur lui un pouvoir économique considérable. Alors, Sévigny a suivi toute cette saga, elle s'est fait expliquer les rebondissements de l'affaire, qui oppose donc en réalité deux clans, parce qu'évidemment, Montaussier, donc c'est une famille puissante, et elle a pleinement conscience de la gravité des enjeux financiers. Elle a écouté, probablement consulté, et puis elle se lance, toujours portée par sa machine à écrire familiale. Et voici son plan.
On me parlait il y a quelques jours de cet accommodement.
Donc, entre les deux.
Et l'on me demandait, pourquoi vous n'aviez pas emmené une de vos filles, ou toutes deux, que leur pension et leur entretien auraient quasi employé les 6000 francs, c'est les fameux arrérages, et que cela n'aurait pas fait aucune augmentation de dépenses chez vous. Outre que vous les auriez accoutumées à être vos filles et disposées à se marier selon vos intérêts. En prenant les filles du premier lit sous leur toit, les Grignans font coup double. Primo, la pension éviterait de payer les rentes. Secondo, elle permettrait de nouer avec vos filles et l'insistance sur le possessivité stratégique des liens qui faciliteraient par la suite l'épineuse question des mariages. Eh bien, ne sous-estimons pas le pouvoir performatif de la lettre. 3 ans plus tard, c'est chose faite.
Les jeunes demoiselles sont accueillies dans le phalanstère de Carnavalet avec toute la tribu Grignan. Et à partir de ce moment, elles deviennent également,
c'est ça qui est intéressant, des interlocutrices
régulières de la correspondance. Pas une lettre sans une mention,
surtout en fin de lettre, une question, une recommandation à l'intention des filles rapportées. Voilà, j'ai un petit exemplier. Vous donnez une idée. Je veux trouver aussi mesdemoiselles de Grignan et mon petit marquis. Mesdemoiselles, je pense bien souvent à vous. Donc, elle les a rencontrées.
Elle les a rencontrées à Grignan. Donc, elles se connaissent.
Je vous redemande ici l'une au jardin et l'autre à l'escarpolette. Rien ne me répond. Vous avez votre part à ma tristesse. Mon cher petit marquis, n'oubliez pas votre bonne maman, etc. Mon Dieu, que j'embrasse de bon cœur mesdemoiselles de Grignan. N'ont-elles point des choses à me dire? Donc, elles sont invitées aussi à se joindre à l'échange.
Mille amitiés à monsieur et à mesdemoiselles de Grignan et à Pauline. Mon Dieu que j'aime toute cette fille de Grignan et Grignette. Alors là, définitivement adoptée et adoubée par ce surnom, les aînés des Grignans sont invités à se former à la méthode familiale,
c'est-à-dire à prendre la plume. Mesdemoiselles de Grignan, ne l'aimez-vous pas bien, c'est Pauline. Vous devriez m'écrire et me conter mille choses, mais naturellement, sans vous en faire une affaire, et me dire comme se porte votre
cher marâtre.
Cela vous accoutumerait à écrire facilement, comme nous. Comme pour la dynastie d'épistolières de la famille Orange-Nassau, dont je fais la généalogie dans le temps des écrieuses, on assiste ici, en fait, à une transmission matrilinéaire d'un savoir-faire épistolaire indissociable de la culture familiale. La feuille de style que Sévigné propose à ses petites filles d'adoption, écrire facilement, compter naturellement, est présentée comme la garantie d'une entente, votre cher marâtre, cruciale pour l'avenir du clan. La stratégie sévignienne de résolution épistolaire des conflits intrafamiliaux a-t-elle porté ses fruits? On peut se poser la question. Disons que c'est un demi-succès.
L'aînée se fait religieuse et fait don à son père des sommes qu'il lui devait. Bingo.
Succès attribué par Sévigné
à ta fille, qui, je cite, a si joliment contribué à cette petite manœuvre, mais j'en ai eu une double joie.
Par contre, la cadette épouse un tocard,
malgré l'avis de la famille, a-t-elle un nom et une éducation à se contenter de cette médiocrité ?
Et l'échec, cette fois, est mis sur le compte du père. Mais voyez avec quelle adresse elle a voulu crocheter et escroquer le consentement de monsieur son père. Comme on le voit avec ce cas de puissance paternelle bafouée, le dossier constitué par Sévigné sur la question clé du mariage fait la part belle au rôle des mères, notamment dans leur fonction de formatrice et de garante de la santé économique du groupe.
Dans cette optique, l'écriture est toujours la clé de la perspective,
à la fois objet et moyen de la transmission.
Et conclure.
Le personnage imaginé par Isabelle Brocard pour incarner Sévigné dans son tout récent film reconduit un très ancien préjugé misogyne, celui du danger que la femme fait courir à l'ordre familial en l'absence de contrôle d'une autorité masculine.
Dans ce scénario, le fils
qui tente de raisonner sa mère et le gendre qui la remet à sa place manu militari rétablissent l'ordre patriarcal menacé par la passion maternelle excessive. Une telle fiction ne résiste cependant pas à une lecture un tant soit peu attentive de la correspondance. Dans un premier temps, celle-ci permet, selon l'approche anthropologique prônée par Irène Théry dans Moi aussi, en fait, sur le consentement, son livre sur le consentement,
de, je cite, prendre la mesure de l'ampleur et de la diversité des formes de violence machiste, d'infériorisation du féminin et d'assujettissement des femmes dans les sociétés traditionnelles. En faisant faire à sa fille un mariage de raison, justifié par les bénéfices d'une alliance avec une famille de haute noblesse, en se prêtant aux transactions du marché aux femmes pour établir son fils, Sévigné se conforme à la conception du mariage pacte familial. Mais aussi, et toujours selon les termes d'Irène Théry, cette approche permet de mettre en lumière, je cite, « une valeur véritable du féminin et l'existence de formes d'autorité et de pouvoir des femmes » demeurait largement méconnu des historiens ou des anthropologues occidentaux de naguère. L'exemple de Sévigné montre que l'épistolaire concédé aux femmes a représenté un vecteur d'agentivité décisif, autorisant
celles qui savaient s'en servir à jouer un rôle économique et politique, notamment par le biais des dispositifs d'alliance. L'épistolaire aborde la question du mariage d'abord en s'appuyant sur sa propre expérience, notamment du veuvage, qui est la mise en position de chef du lignage, dispensé de la soumission au pouvoir des pères, mais contrainte de développer des stratégies pour compenser le défaut de légitimité. Il en découle plus qu'un savoir, une pensée qui interroge les relations
hommes et femmes, parents et enfants, assure une promotion du féminin et dont le vecteur de diffusion et de transmission est l'épistolaire. Dans l'ordre familial qui fut
le cadre de travail de Sévigné, il y a donc bien un projet de léguer un matrimoine qui fait non seulement, un matrimoine fait non seulement des biens matériels, mais encore de la valeur ajoutée de l'écriture.
Et je vous remercie.